Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission d'avril de PC, jeux, gadgets et le reste. Une première chose que vous avez probablement tout de suite remarqué, c'est que la qualité sonore de la podcast est un petit peu améliorée. Eh bien oui, j'ai un petit peu revu mon installation de prise de son. Donc, par conséquent, vous devriez avoir une meilleure qualité. Il faut dire que la dernière podcast, c'était pas terrible. Même moi-même, j'en étais pas très content. Eh bien, j'ai rajouté une sorte de petite ampli entre mon micro et la carte son de mon PC pour un petit peu améliorer le signal. Et ça donne beaucoup mieux maintenant. En ceci que je ne suis plus obligé de coller le micro à ma bouche ou presque pour obtenir un volume raisonnable. Donc ça, c'est déjà une belle amélioration. J'espère que vous apprécierez. Tant qu'on en est à parler de son, j'en profite pour vous signaler que la petite musique rythmée que vous êtes en train d'entendre est en fait faite par l'artiste Zero Page, ou Zero Page, si vous aimez la prononciation anglaise, que vous pourrez trouver sur Jamendo. Pour ceux d'entre vous qui voudraient aller la télécharger, le titre de la chanson, c'est Ambient Dance. Je mettrai comme d'habitude un petit lien vers la page de l'artiste sur Jamendo sur le site web de la podcast, à savoir www.pcjj.com. Je sais, je le répète à chaque fois ou presque, mais bon, il me dit qu'il y a des nouveaux qui écoutent peut-être la podcast pour la première fois et qui aimeraient bien savoir. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux, si jamais vous allez sur notre site, vous aurez les liens vers les choses dont je parle, l'artiste qui fait la musique d'intro et toutes ces petites choses-là qui ne sont pas forcément faciles à faire passer en audio. Alors, tant qu'on en est à parler de choses qui ne sont pas faciles à faire passer en audio, je vais pour une fois me faire un petit peu d'autopromotion, vu qu'un de mes autres projets, enfin, autre que la podcast, a abouti ce mois-ci. Il s'agit d'une bande dessinée en ligne de science-fiction qui s'appelle Le Monde Robot d'Erlik. Histoire de vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous faire un petit synopsis. Ça se passe sur Terre, assez bien après notre ère, et au moment où on y arrive, la Terre est dominée par une sorte d'impérium où il n'y a que des robots. Alors pourquoi n'y a-t-il pas d'humains ? D'où viennent ces robots ? Pourquoi est-ce qu'il y a une sorte d'empire ? Tout ça, vous découvrirez au fil des pages. Le héros est en fait le robot I, qui est en fait un agent secret pour cet impérium et qui se voit confier une mission bien mystérieuse et bien étrange qui va lui faire découvrir plein de choses intéressantes. Bon, pas uniquement à lui, au lecteur aussi. Donc c'est de la science-fiction avec une bonne dose d'aventure et pas mal de fantastique aussi. C'est pas de la science-fiction dure où il n'y a que du scientifique et de la spéculation, non. C'est la science-fiction un petit peu plus genre guerre des étoiles et choses de ce genre-là. Point de vue format, je vais publier gratuitement une page par semaine sur monderobot.blogspot.com. Et oui, c'est chez Blogger que j'ai mis tout ça pour ne pas avoir à payer l'hébergement. Si vous voulez tout avoir d'un coup ou imprimer facilement, vous pouvez aussi télécharger tout l'épisode numéro 1 en PDF pour, je crois, 2€, pas grand-chose. Et enfin, je suis en train d'étudier la possibilité de mettre en place du print-on-demand pour les gens qui préfèrent vraiment le papier imprimé par une vraie imprimante. Hormis ça, vous allez avoir ce mois-ci des news et un petit dossier sur plasma contre LCD. En effet, j'ai remarqué dans la semaine que pas mal de gens semblent avoir des difficultés à évaluer la différence entre ces deux technologies et à trouver ce qui leur convient. Quand vaut-il mieux du plasma? Quand vaut-il mieux du LCD? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque? Tout ça, je vais un petit peu en parler, tout en décrivant comment ces technologies marchent. Mais sans plus attendre, attaquons tout de suite les news.
Vous vouliez du nouveau? Voilà les news.
Alors, je vais commencer ces news par une annonce qui concerne surtout ceux d'entre vous qui jouent aux jeux vidéo sur console ou qui comptent s'acheter une console, vu qu'un des événements de ce mois-ci, c'est la baisse de prix fort importante de la Xbox 360. En effet, il est maintenant possible d'obtenir le pack de base, c'est-à-dire celui sans disque dur, pour 200€ et le pack avec disque dur pour moins de 300€. Alors ceci, ça relance évidemment tout à fait la lutte entre la Wii et la Xbox 360 et la PlayStation 3. Alors le phénomène intéressant, c'est qu'il n'y a maintenant plus réellement de différence de prix entre la Wii et la Xbox 360. À la limite, la Xbox 360 serait même moins chère maintenant que la Wii, vu qu'il y a moyen d'avoir un package équivalent à ce que la Wii vous offrirait pour 50 euros de moins, vu que la Wii elle est toujours à 250 euros. Et pourtant, il semblerait que la Wii se vende encore plus, malgré la grosse supériorité technique de la Xbox 360. Comme quoi, ce que les gens veulent, c'est clairement le mode de contrôle original de la Wii, c'est-à-dire la Wiimote, plus que des graphiques vraiment léchés et haute définition sur l'écran. J'en profite donc pour faire un petit tour de l'état du marché des consoles de nouvelle génération. Et d'après le site VG Charts, il semblerait que la Wii soit toujours très fort en tête avec 23 millions de consoles vendues, ou 44,5% de part de marché dans les consoles de nouvelle génération. Ensuite, il y a la Xbox 360 qui approche les 18 millions, ou presque 35% de part de marché. Il faut dire que la Xbox 360 ayant été mise en vente un an avant les autres, elle a eu le temps de prendre une certaine avance. Ensuite viendrait la PlayStation 3 qui a enfin commencé à démarrer ses ventes, je dirais, depuis la baisse de prix de la fin de l'année dernière et qui se trouverait maintenant à peu près 11 millions de consoles ou un bon 21% de part de marché. Pour ce qui est des dernières ventes, eh bien on constate qu'à peu près partout dans le monde, la Wii est en tête. Suivi par la Xbox 360 et la PlayStation 3 qui sont à peu près au coude à coude. A savoir qu'en Europe, la PlayStation 3 se vend un petit peu mieux que la Xbox 360 et aux États-Unis, c'est le contraire. C'est la Xbox 360 qui se vend un peu mieux que la PlayStation 3. Au Japon, y a une légère, il y a une avance de la PlayStation 3 parce que la Xbox 360 se vend très mal, mais la PS3 elle-même se vend très peu. C'est la Wii qui contrôle le Japon de manière presque uniforme. On peut donc dire clairement que la Xbox 360 et la PlayStation 3 sont en train de se battre pour essayer d'avoir la deuxième place loin derrière la Wii. Tant que j'en suis à parler de jeux vidéo, je ferai peut-être bien un petit tour des dernières sorties intéressantes en matière de jeux de rôle ou de jeux de tir ou de jeux multijoueurs sur PC, mais force est de constater que ces derniers mois, eh bien, il n'y a pas grand-chose. On a eu quelques jeux de rôle qui étaient vraiment pas terribles, comme Art to be a God, qui honnêtement ne vaut pas son prix. Des trucs un peu nuls comme Stranger, des choses du genre. Il y a cependant deux titres qui pourraient attirer votre attention. De un, si vous avez aimé le jeu de hack and slash Silverfall, eh bien il y a une suite, enfin un add-on qui a été sorti, qui s'appelle Silverfall Heart Awakening et qui est pas mal fait du tout. Ça rajoute pas mal de contenu et de durée de vie. Donc si vous avez aimé le jeu original, ça vaut éventuellement la peine d'investir. Et ensuite, il y a Frontlines, Fuel of War qui est sorti. Eh bien, en gros, c'est un petit peu un clone de Battlefield 2, sauf que ici, la campagne solo est quand même un poil plus consistante. C'est pas uniquement un entraînement, mais ils ont essayé de mettre une véritable histoire. Sinon, ça ressemble très 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 fort à du Battlefield 2, ce qui est pas forcément mal vu que Battlefield 2 était quand même un très très bon jeu. Hormis ces deux titres-là, fort est de constater que c'est un petit peu la morte saison pour ce qui est du jeu vidéo PC. Et oui, pas de bol. Point de vue autres news qui n'ont pas directement à voir avec les jeux vidéo, nous avons la sortie de Windows Vista SP1 pour certaines personnes. Et oui, pour certaines personnes, parce qu'apparemment, suite à des problèmes de compatibilité avec certains drivers et d'autres applications, Microsoft a décidé de ne pas activer le download pour tout le monde. Vous pouvez déjà télécharger le download et l'appliquer, mais ce ne sera pas encore installé automatiquement et ce service pack refusera de s'installer sur certains PC si un driver ou quelque chose que Microsoft considère comme étant critique et incompatible est détecté. Donc la plupart d'entre vous peuvent déjà essayer Windows Vista Service Pack 1. Honnêtement, j'ai un petit peu suivi les échos des installations sur Internet. En général, si les gens n'avaient déjà pas trop de problèmes, l'installation du service pack 1 se passe sans trop de difficultés et en général améliore un petit peu l'état des choses, notamment la copie de fichiers et ainsi de suite. Ça va de catastrophique à pas terrible mais supportable. Par contre, beaucoup de gens qui avaient déjà des problèmes ont rapporté des ennuis pour installer leur software ou des problèmes avec des drivers de cartes graphiques ou divers inconvénients, je dirais. Donc, ça vaudrait peut-être la peine d'attendre un petit peu que les plâtres et la poussière soient retombés avant de procéder à l'installation, ou tout au moins de faire une copie ou un backup de votre système avant de vous lancer dans l'installation de Service Pack 1. Dans une note un petit peu en rapport, il semblerait que les ventes de Macintosh décollent aux États-Unis. En effet, Mac est en train de devenir une des plateformes les plus populaires, vu que maintenant en magasin, c'est 14% des ordinateurs vendus sont des Macintosh. Pour vous donner une idée, à la même période à l'année passée, c'était 9%, et l'année d'avant, ça devait encore être bien moins. Par conséquent, il semblerait que de nombreuses personnes en fait, ne veulent pas upgrader vers Windows Vista. Et entre nous, je ne peux pas leur donner tort, je ne veux pas upgrader vers Windows Vista non plus. Je suis convaincu que Windows Vista est le nouveau EMI, comme disent beaucoup de gens. Et du coup, beaucoup se rabattent sur les Mac. Donc, le Mac est en train de redevenir une plateforme très populaire. C'est un peu la faute de Microsoft. C'est aussi un peu grâce à Apple qui a quand même un bon produit. C'est en général un peu cher, je trouve, les Mac, mais la qualité est là, on ne peut pas nier. Donc, tout ça pour dire que si vous avez Windows Vista, vous pouvez essayer d'installer ce service Pack 1, que ça améliorera peut-être un peu la situation, mais qu'il est fortement recommandé de faire un backup de son système avant, au cas où on se retrouverait avec un blue screen. Apparemment, c'est pas impossible. Pour clôturer ces news, je vais parler aussi d'un programme qu'un de mes auditeurs m'a mentionné, qui est le programme Gizmo 5. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'un programme de VoIP, donc qui vous permet de parler sur Internet comme si vous aviez un téléphone. Mais l'avantage de ceci est que ça peut s'installer non seulement sur la plupart des systèmes desktop tels que Windows, Apple, Linux et même les tablettes Nokia, mais également sur certains téléphones mobiles, ce qui peut être pratique. Par exemple, il y a une option pour Palm, ce qui peut évidemment être très pratique non seulement si vous avez une carte Wi-Fi qui vous permet de téléphoner entre guillemets via le système Wi-Fi sans utiliser le réseau de votre fournisseur de GSM, mais également si jamais vous avez un contrat GSM avec une assez grande quantité de bandes passantes à Internet comprises dans le prix. Parce que dans ce cas-là, vous pouvez également utiliser ce système pour téléphoner vers quelqu'un d'autre qui aurait le client sans faire un appel GSM, mais en utilisant votre bande passante GPRS. Donc en fonction du contrat que vous avez, ça peut éventuellement vous économiser pas mal de sous. Surtout si vous appelez essentiellement quelqu'un qui peut facilement installer le client Gizmo 5 ou Gizmo 5, je ne sais pas lequel il faut dire, sur son PC. Alors pour ceux d'entre vous qui voudraient aller voir, ça se passe à Gizmo 5, donc Gizmo G-I-Z-M-O et 5 en chiffres, .com. Un grand merci à Serge pour avoir attiré notre attention sur ce programme qui peut être très intéressant. Sans plus attendre, passons maintenant à notre mini-dossier Plasma ou LCD. Que choisir ?
Apportez-moi le dossier suivant, s'il vous plaît.
Une question que je semble rencontrer assez souvent à cette époque où beaucoup de gens veulent s'équiper d'une télévision capable de reproduire des images en haute définition est: faut-il choisir un écran à plasma ou un écran LCD ? Bonne question, et la réponse n'est malheureusement pas si simple, c'est ça dépend, comme bien souvent en matière de technologie. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux technologies ? Eh bien, je vais commencer par le LCD, car ça semble être la technologie la plus répandue. Comment marche un LCD ? C'est relativement simple. Dans le cadre qui entoure la télévision, vous avez en fait des espèces de lampes néons, un petit peu comme celles que vous avez parfois dans les plafonds, mais qui émettent de la lumière ultraviolette, que vous ne voyez donc pas. Ces lampes, en fait, éclairent une plaque qui se situe derrière l'écran et qui absorbe cette lumière ultraviolette et la réémet comme lumière blanche. L'effet, c'est que vous avez donc derrière votre écran une plaque qui émet de la lumière blanche, une plaque lumineuse en fait. C'est ce que l'on appelle le rétroéclairage. Donc, à la base, un écran LCD, c'est une plaque qui émet de la lumière blanche. Maintenant, comme on ne veut pas vraiment voir de la lumière blanche parce que ça ne nous intéresse pas trop, si c'était ça, on aurait acheté une lampe, eh bien, on a mis devant cette lumière blanche, en fait, une série de filtres qui vont la coloriser. Et on aura divisé ces filtres en un nombre relativement important de pixels, chaque pixel pouvant prendre une certaine couleur en fonction de ce que l'écran doit afficher. Par conséquent, si jamais on veut qu'un pixel affiche du rouge, eh bien le filtre sera ajusté pour transformer la lumière blanche en lumière rouge. Ça marche assez bien, ça ne chauffe pas trop, parce que bon, c'est juste quelques tubes néons qui ne chauffent pas. Ça va assez vite dans la mesure où maintenant il y a moyen d'avoir des filtres LCD qui changent de couleur en quelques millièmes de seconde. Les images créées sont très stables, car ben, pour ne pas changer une image, ben, il suffit de garder le filtre tel qu'il est. C'est pour ça que cette technologie est beaucoup utilisée dans le domaine de l'informatique, où comme l'objectif est souvent d'afficher du texte, on veut avoir une image très stable. Aussi, il est possible de faire des pixels très petits. Donc, il est possible d'avoir des écrans de relativement petite taille qui ont quand même une résolution haute définition. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le plasma, comme on le verra plus tard. Alors, cette technologie a quand même aussi quelques inconvénients. Et oui, parce que sinon, si c'était parfait, on ferait tout en LCD. D'abord, l'inconvénient numéro 1, c'est que comme la lumière en fait est créée de manière uniforme par la plaque lumineuse qui se trouve à l'arrière, donc par le rétroéclairage, eh bien si vous voulez faire des noirs, c'est pas facile, parce que vous devez commander à votre filtre d'essayer d'arrêter toute la lumière. Eh bien les filtres ne savent pas faire ça très bien. Donc, en LCD, le noir, c'est en fait du gris très foncé, c'est pas du vrai noir. Ensuite, vu que c'est de la lumière blanche qui est colorisée par un filtre, eh bien, les couleurs ne sont pas forcément très brillantes. Donc, on peut dire que ce que le LCD gagne en stabilité et en finesse d'image, il le perd un petit peu en restitution des couleurs et des noirs. Un autre problème qui a maintenant heureusement presque disparu, c'est que comme les lampes à UV sont le long des bords de l'écran, et bien sur certains écrans bon marché, on peut voir que les zones proches du bord de l'écran sont plus lumineuses que le centre, ce qui ne donne évidemment pas un bel effet. Heureusement, dans la plupart des écrans d'un certain prix à notre époque, ce problème a été essentiellement résolu, mais c'est quelque chose que vous pourriez constater si jamais vous décidez d'acheter un écran budget. Comparons-le maintenant à la technologie plasma. De quoi s'agit-il quand on parle de technologie plasma ? Eh bien, dans ce cas-ci, chaque pixel est en fait constitué de trois petites lampes, si vous voulez, qui émettent chacune une des couleurs de base. Et évidemment, comme les lampes sont superposées dans chaque pixel, eh bien, en fonction de la quantité de lumière que chacune des lampes colorées émet, le pixel prendra plus ou moins d'une couleur ou d'une autre. Ce qui permet évidemment de faire changer la couleur des pixels à l'écran. Alors l'énorme avantage, c'est que ces pixels ne sont pas obligés d'être tout le temps allumés. C'est-à-dire que si vous voulez faire un noir ou une couleur foncée, eh bien il suffit de demander à ces lampes de briller moins fort ou de ne pas briller du tout. Ce qui donne une restitution superbe des noirs et des couleurs aussi, vu que la couleur n'est pas ici créée par un filtre, mais directement produite, colorée, si vous voulez, par la lampe. L'inconvénient de cette technologie, c'est que vu que chaque pixel est constitué de trois petites lampes, eh bien c'est pas facile à miniaturiser en dessous d'une certaine taille. Donc, à partir du moment où vous voulez une résolution haute définition, c'est-à-dire beaucoup de pixels, ben forcément votre écran devra avoir une certaine taille. C'est-à-dire que pour avoir de la haute définition en plasma, il faut viser le 50 pouces. Ou pour les gens qui parlent en métrique, du 1,25 m de diagonale, c'est-à-dire vraiment très grand et souvent pas bon marché. Il est évidemment possible d'avoir des plasmas plus petits, mais ceux-ci ont rarement une résolution haute définition et encore moins une résolution True HD, qui est la résolution de 2000 pixels plus ou moins par 1000 pixels de haut. Un autre point à constater également, c'est que l'image a tendance à être un rien moins stable. C'est pas grave du tout si vous voulez utiliser votre écran uniquement pour voir des films ou pour jouer à des jeux vidéo, comme avec une console. Mais par contre, cela peut être embêtant si vous comptez aussi utiliser votre écran comme écran d'ordinateur, vu que la lisibilité et la stabilité du texte pourraient s'en retrouver affectées. Un autre point qui a souvent été mis en avant, c'est la durée de vie des plasmas. En effet, les plasmas d'un certain âge, c'est-à-dire ceux qui ont été produits il y a de ça 4, 5, 6 ans, avaient une durée de vie relativement limitée. Si jamais vous vouliez le laisser tourner toute la journée, eh bien, après quelques années, vous commenciez à avoir des problèmes d'usure des petites lampes, vu que les lampes émettant elles-mêmes la lumière, elles finissaient par brûler. Ce problème a été essentiellement résolu. Si jamais vous achetez un plasma de qualité à notre époque, vous pourrez probablement le laisser tourner toute la journée pendant 10 ans avant d'avoir le moindre problème. Donc en utilisation normale, vous pouvez vous attendre à une durée de vie de 15 à 20 ans, qui est à peu près similaire à ce que vous auriez avec un LCD. Un autre point qui a un petit peu embêté les gens avant, c'est que les plasmas, du moins les premiers, avaient fort tendance à chauffer. Ce problème existe encore, mais a été fortement minimisé. Donc vous ne devez pas avoir peur que votre plasma devienne un véritable deuxième chauffage. Ça chauffe a priori encore un peu plus qu'un LCD, mais ça n'est plus vraiment un facteur, à mon sens, suffisant pour décider pour l'un ou pour l'autre. Enfin, je vais finir par émettre une petite recommandation. Dans quel cas visez-vous le LCD et dans quel cas visez-vous le plasma ? Vous visez le plasma de 1 si vous voulez un grand écran. Si vous avez les moyens de vous placer un écran d'1m25 et que vous voulez vraiment cette taille-là ou plus grand, le plasma vous fournira probablement un meilleur rapport qualité-prix. Ceci est essentiellement en raison de la qualité des couleurs. Vous aurez également intérêt à prendre du plasma si la finesse du graphisme est pour vous moins importante que la qualité des couleurs. Et si vous comptez utiliser avant tout l'écran pour voir des films ou des jeux vidéo plutôt que du texte. Quand voudrez-vous du LCD ? Eh bien, vous voudrez du LCD quand vous voulez quelque chose qui soit compatible haute résolution dans des tailles plus réduites. En effet, si jamais vous voulez prendre un 32 pouces, qui est plus ou moins la taille standard actuellement, vous ne trouverez pratiquement que du LCD si vous voulez la haute résolution. Enfin, si vous comptez utiliser l'écran pour voir du texte ou comme écran d'ordinateur, le LCD est également recommandé en raison de sa plus grande lisibilité et de sa plus grande stabilité d'image. Sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir, au mois prochain. Allez visiter ma BFD sur monderobot.blogspot.com. Venez nous visiter sur www.pcjg.com. Ça fait toujours plaisir quand vous laissez un petit commentaire intéressant. Et à ciao! Bye!